Deutsche Welle, Économie et développement.
L'interdiction des sacs plastiques, eh bien, ça change les habitudes, mais vous n'y voyez pas forcément grand-chose à redire. C'est plutôt une bonne chose pour l'environnement. Eh bien, les industriels, eux, ne sont pas du même avis. Les sacs plastiques seront interdits au Kenya dès le mois de septembre et le débat fait rage. Et puis, en seconde partie de ce magazine Économie et Développement, on s'intéressera aux solutions pour faire face à la dépendance toujours forte aux matières premières des pays africains. C'est Claire-Marie Kostmann au micro. Bienvenue.
Yo.
Dans ce supermarché du centre de Nairobi, Shemina, la gérante, s'organise pour le mois de septembre.
On a déjà commencé à vendre ces paniers en osier, mais nous avons encore un problème. Si un client n'achète qu'un seul produit, qu'est-ce qu'on fait ?
D'ici quelques semaines, plus question de proposer aux clients des sacs plastiques à la caisse.
Ils ne sont pas contents parce qu'on doit trouver une solution. On est en train de réfléchir à une alternative, mais on n'a pas encore trouvé.
Au Kenya, à la moindre emplette, les clients ressortent plusieurs sacs à la main. Les sacs plastiques sont systématiques. Les Kenyans s'interrogent.
Je vais me plaindre parce qu'on a tellement l'habitude. Mais je suis d'accord, sérieusement, ce ne sont pas de simples déchets qu'on jette et qui sèchent. Cela reste. Quand il pleut, il pollue l'eau partout.
C'est une bonne chose car c'est pour préserver l'environnement. Et s'il y avait une alternative, j'utiliserais autre chose.
C'est une bonne idée pour l'environnement. Vous savez, les gens ne sont pas disciplinés. Mais s'ils utilisent les autres sacs, ceux-là pourront se composter.
Un problème environnemental mais aussi économique. Au Kenya, l'industrie du plastique pèse lourd. Près de 180 usines le produisent sous toutes ses formes à travers le pays. Alors pour les professionnels du secteur, cette décision passe mal. Samuel Matonda est responsable secteur à l'Association des industriels kenyans.
Il y a énormément de travailleurs qui souffriront de cette interdiction à travers toute la chaîne de valeur. Le secteur du plastique contribue à hauteur de 50 millions d'euros de taxes. L'impact sera donc énorme si l'interdiction est effective, car beaucoup d'industries pourraient fermer.
En tout, près de 500 000 emplois seraient menacés, à en croire Samuel Matonda. L'argument fait mouche, mais le gouvernement ne s'est pas fait attendre pour riposter. À la télévision nationale, Judy Wakungu, ministre de l'Environnement, affirme que les industriels exagèrent.
Mon argument est celui-ci. Quand vous regardez la production de sacs de course, tous les travailleurs n'y participent pas. Ils travaillent à la production de beaucoup d'autres produits des industriels.
Impact sur l'industrie du plastique, mais aussi sur les petits commerçants. Ils sont des milliers à Nairobi, comme Gladys, qui vend quelques fruits et légumes au coin de cette rue fort fréquentée. Des sacs plastiques, elle en utilise des dizaines par jour. Ils font partie de son business.
On utilise les sacs plastiques parce que ce n'est pas cher. 100 pièces me coûtent 50 centimes d'euros. J'en utilise pour couvrir tous mes produits, les tomates, les fruits, le pain, tout ce que je vends. Et aussi, c'est hygiénique. Quand mes mains sont sales, je préfère enfiler des sacs à main pour être sûr.
Michael, son client ce jour-là, a du mal à imaginer faire sans.
Nous, les hommes au Kenya, on n'aime pas porter des choses à la main ou dans un sac qui ressemble à un sac à main. Donc, il faut trouver un autre moyen.
Gladys ne fait pas partie de l'industrie du plastique, mais elle aussi s'inquiète pour son business.
C'est bien qu'ils interdisent les sacs plastiques, mais ils doivent trouver autre chose pour nous aider. Je suis inquiète. S'ils venaient à disparaître, qu'est-ce que nous allons utiliser ?
Trouver une alternative aux sacs plastiques, c'est bien là tout l'enjeu de cette mesure. Car selon l'Association des industriels kenyans, elle ne pourra être efficace que si un système de tri et de recyclage des déchets est organisé. Samuel Matonda de l'Association des industriels kenyans.
On a beaucoup de sociétés qui font déjà du recyclage. Cela signifie qu'on est sensible à l'environnement. Mais on réfléchit à un écosystème dans lequel même les déchets auraient une valeur. Ils peuvent être recyclés et utilisés pour faire d'autres produits. Je sais que oui, c'est une très bonne intention, mais le Kenya n'est pas prêt aujourd'hui car il n'y a pas d'alternative et on met quand même cette mesure en place.
Judy Wakungu, ministre de l'Environnement, de rétorquer.
Cette discussion est sur la table entre le ministère et l'association des industriels depuis plus de 15 ans. Donc ce n'est pas une surprise pour les industriels. Ils savaient que ce jour arriverait.
Si l'agenda est respecté, le Kenya suivrait les pas de son voisin le Rwanda. Là-bas, les sacs en papier et les sacs réutilisables ont remplacé depuis 10 ans déjà les sacs en plastique. À Nairobi, Charlotte Simonard pour la Deutsche Welle.
Les économies africaines dépendent encore de manière beaucoup trop importante de leurs matières premières, selon la société d'études Cyclope qui a publié son rapport annuel dédié à l'Afrique. Le défi est d'en faire une source de croissance, or le bilan est accablant. En Côte d'Ivoire et au Ghana, la paix sociale est menacée par la chute des prix du cacao, dont les deux pays sont les principaux producteurs mondiaux. Sur l'année 2016, le cacao a perdu 22% de sa valeur sur le marché de Londres et 34% sur le marché de New York. Le directeur de la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, auteur d'un chapitre du rapport, précise lui que les gouvernements africains se sont engagés à dépenser au moins 10% de leur budget sur l'agriculture, ce qui est une bonne chose, mais seulement 5 pays sur 54 membres de l'Union africaine y sont parvenus, en dehors du Maroc. Quand on parle des matières premières en Afrique, impossible de faire l'impasse sur le pétrole. Mais avec la chute du prix de l'or noir, plusieurs pays souffrent. Le Gabon, cinquième producteur d'or noir en Afrique subsaharienne, a connu plusieurs grèves. En 2016, le Tchad a enclenché une politique d'austérité, entraînant des mouvements sociaux. En juin dernier, le Fonds monétaire international, le FMI, a accordé un crédit de 666 millions de dollars au Cameroun. En échange, Yaoundé devra mener un programme sur 3 ans pour redresser une économie mise à mal par la chute des prix pétroliers. N'oublions pas non plus le Nigeria. Le Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique, a été l'un des pays les plus touchés par la chute des cours mondiaux du brut depuis 2014. L'an dernier, le pays est entré en récession pour la première fois depuis 25 ans, avec une inflation à 2 chiffres et un Naira en chute libre face au dollar. Dans le delta du Niger, où se trouvent les infrastructures pétrolières et gazières, des attaques de groupes armés qui exigent une meilleure redistribution des revenus ont encore plus fragilisé la situation. Mais pour l'entrepreneur Ngie Ayouk, auteur du livre « Le pétrole et le gaz africain et la recherche de la prospérité », il faut prendre garde aux solutions simplistes face à ce que l'on appelle la malédiction des matières premières. Il ne s'agit pas seulement d'investir l'argent du pétrole dans l'agriculture, il faut construire les infrastructures adéquates pour monter des filières et encourager les entrepreneurs.
La solution sur laquelle j'insiste dans mon livre, c'est que tout va de pair. Par exemple, nous voyons venir des compagnies pétrolières allemandes, britanniques ou américaines à Port-Harcourt, au Nigeria, à Douala, au Cameroun, en Angola. Et ces compagnies font venir de la nourriture pour leurs employés des États-Unis ou d'Europe. Ils devraient faire partie des plans de développement. Ils devraient travailler avec des fournisseurs agricoles locaux pour booster leurs capacités afin qu'ils puissent assurer leurs services. Ce serait une solution durable en terrain connu. Ma suggestion est donc de favoriser les compétences locales. Juste penser en termes d'argent ne va pas vraiment résoudre le problème.
Reste que le pétrole est toujours vu comme une manne. L'administration du président Muhammadu Buhari explore les bassins intérieurs allant de l'état central de Benoué au cœur des bastions de Boko Haram dans le nord-est du Borno où sévit la secte. La compagnie pétrolière nationale nigériane a reçu le feu vert des autorités pour reprendre les explorations stoppées en 2014 quand la secte était très forte. La compagnie travaille avec une filiale du géant pétrolier chinois China National Petroleum Corporation, déjà à l'œuvre au Tchad et au Niger voisins. Le secteur pétrolier, vous le savez, est souvent lié aux affaires de corruption et de biens mal acquis, que ce soit au Gabon, au Congo ou au Nigeria, où plusieurs affaires ont défrayé la chronique, ou encore en Guinée équatoriale. Dans ce petit état pétrolier, une large partie des habitants survit avec moins de 2 dollars par jour. Alors que le fils du président, Théodorin Obiang, a été poursuivi par la justice française pour ses dépenses somptuaires. Pourtant, Ng Ayouk veut plutôt voir le verre à moitié plein.
Je comprends bien la critique, mais regardez d'autres pays en Afrique centrale, le Congo, le Gabon, le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique et puis la Guinée équatoriale. Le livre se concentre sur le secteur pétrolier et sur la façon de trouver des solutions africaines aux problèmes africains, sur la manière de bien utiliser ces ressources. Vous avez soulevé la question de la corruption. La corruption est indésirable dans tous les pays africains et ma génération a besoin d'aborder la question publiquement. Mais si l'on regarde la Guinée équatoriale, il y a 20 ans, il n'y avait pas d'électricité dans ce pays. Aujourd'hui, Malabo a plus de pouvoir que tout autre pays d'Afrique. Et cela a été réalisé grâce au gaz. Il y a beaucoup de choses qui ont mal tourné, des choses obscènes, amorales, on le sait. Mais le pays a fait beaucoup en matière de construction, de l'infrastructure. Il faut aussi regarder comment ils ont développé beaucoup de choses positives.
L'analyste salue aussi les efforts en matière d'énergie renouvelable, par exemple en Éthiopie ou en Zambie. Selon lui, l'Union africaine va dans le bon sens. Début juillet, elle a signé un partenariat d'énergie propre, géothermique, avec la Nouvelle-Zélande. Wellington va investir 8 millions de dollars dans des pays où l'exploitation de la chaleur stockée dans le sous-sol est possible, comme le Kenya, l'Éthiopie, le Mozambique ou encore la République démocratique du Congo. Merci à Gwendoline Hills pour l'interview. Et pour réentendre ce magazine économie et développement, allez sur notre site www.com/français, rubrique médiathèque. Merci pour votre écoute, au revoir et à la semaine prochaine. Hey!